gris du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. La musique l'habite et la fait vivre. Professeur de piano, on ne compte plus le nombre d'élèves qui, au gré du temps, on peut découvrir les joies et aussi les difficultés de l'apprentissage de la musique. Accompagnatrice pendant 10 ans à l'École des jeunes de l'Université de Montréal, au Collège Notre-Dame, à l'École Curé Antoine Labelle à Laval, à Vincent d'Indy et pour les concours provinciaux et nationaux, on lui connaît aussi des talents de chambriste auprès de différentes formations. Elle a fait quelques tournées avec la Société de musique contemporaine du Québec, volet jeunesse, et participe à titre de membre de jury à évaluer des candidats et candidates à des concours musicaux. Catherine Leroux, c'est un privilège de vous recevoir, tant votre feuille de route nous impressionne.
Merci, ça me fait plaisir.
C'est vrai que c'est impressionnant quand on raconte tout ce que vous faites.
Oui, bien, je voulais juste vous mentionner, c'était à l'Université de Montréal. À l'École des jeunes, j'accompagne toujours.
Toujours.
Mais c'était à l'Université où j'ai été pendant 10 ans.
Parfait. Et là, vous êtes au Collège Marie-Victorin.
Oui, au Cégep Marie-Victorin. Et puis, j'adore mon métier là-bas, là, présentement.
J'imagine qu'il y a une différence quand même entre accompagner des interprètes qui font carrière professionnelle et se retrouver au quotidien avec des jeunes pour leur permettre de développer leur talent.
Oui, parce qu'avant, lorsque j'étais pigiste, je veux dire, j'étais invitée 2 semaines à un tel endroit, après ça, 1 mois. Alors, on s'attache plus ou moins au lieu, puis on n'est que de passage. Mais là, quand on s'investit dans une institution, on a le temps de s'asseoir, et puis là, il faut garder le rythme, il faut avoir une vision à long terme.
Et il faut essayer peut-être aussi de s'approprier les rêves des jeunes qui sont devant nous, pour pouvoir leur permettre de les réaliser, non?
Oui, mais ça, je pense que on est chanceux, les accompagnateurs. On voit souvent à l'intérieur des jeunes, puis on sait comment aller chercher le meilleur d'eux-mêmes, là, le faire sortir. Alors, on reste toujours alerte.
Et ça, c'est l'expérience qui vous permet ça.
Oui, puis le... Oui, l'amour des jeunes.
Il faut dire que, puis on va peut-être avoir l'occasion d'en parler de façon un peu plus étendue, vous êtes aussi directrice musicale de l'opéra de ce cégep. Ça signifie quoi, ça, comme fonction?
En fait, c'est un bien grand mot, c'est que je m'occupe du volet musical, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe du volet de la mise en scène. C'est Nathalie Deschamps, avec qui je travaille déjà depuis 10-11 ans. Et elle a un volet où elle humanise toute la profondeur du texte de l'opéra ou de la comédie musicale sur laquelle on travaille. Et moi, je m'occupe du volet musical. Alors, on travaille la musique ensemble et j'apprends aux élèves à être autonomes, à ne pas être dépendants de moi, c'est-à-dire... Parce que je sais qu'ils vont être très occupés sur scène à bouger, à s'occuper de leur costume. Alors, il faut que très rapidement, la musique soit ancrée comme un réflexe en dedans d'eux autres.
Là. Comment on réussit à leur permettre de développer cette autonomie? Ça ne doit pas être très facile.
Je me trouve des trucs. Je vise... d'aller assez rapidement. Je vous dirais que la première fois que je les rencontre, c'est une lecture, puis je leur demande des fois de l'avoir regardé d'avance. Et la deuxième fois, ben on l'apprend par cœur, la deuxième rencontre. Et la troisième fois, ben ils sont en mise en scène, déjà.
Est-ce que c'est toujours des œuvres du répertoire bien connues ou des fois on explore des choses un peu
comme
plus
comme je vous disais tantôt, on peut aller jusqu'à la comédie musicale. On a fait The Sound of Music aussi. Là. Alors, on s'est permis d'aller de ces côtés-là, mais on a fait des œuvres plus classiques.
Plus sérieuses.
Oui, il y a eu La Vida abrévée, il y a eu Les enfants et les sortilèges de Ravel. Alors, bon, là, on est dans le Gershwin. On a eu...
Un peu comme la semaine dernière, on va écouter beaucoup d'œuvres musicales au cours de l'heure qui va suivre. Si je vous mentionne Federico Monpou, ça vous dit quelque chose à vous?
De la musique espagnole... d'une simplicité et qui vient chercher le cœur, qui vient nous chercher directement au cœur, droit au cœur, d'une très, très belle simplicité.
Alors, on va écouter, puis on pourra parler de ce compositeur qui n'est peut-être pas si connu que cela, mais c'est une belle découverte, d'autant que ce que nous allons entendre, la danse numéro 1, est interprété par lui-même. C'est un enregistrement qui date de 1974. Il avait déjà, à ce moment, 80 ans. On vient d'entendre la danse numéro 1, Catherine, de Federico Monpou. C'est vous qui nous avez proposé ce compositeur. La surprise, c'est que vous ne saviez pas que c'était aussi lui qui allait interpréter l'œuvre. C'est un vieil enregistrement, comme je le disais, de 1974. Pour vous qui êtes à l'écoute, on peut peut-être mentionner que Federico Monpou a donné son premier concert public il y a très longtemps, en 1908. Il avait d'ailleurs profité de l'occasion pour abandonner l'école. Et comme on a découvert son talent, comme vous, vous le découvrez avec les élèves que vous accompagnez, il est parti s'installer à Paris en 1911 dans le but, cette fois, non pas de reprendre l'école, mais de poursuivre des études musicales, autres que des études dites académiques. Il a passé une jeunesse dorée. Il a été chanceux parce qu'il a pu rencontrer des gens comme Manuel de Falla, Sergei Prokofiev, Arthur Rubinstein, avec lequel il a fait le tour des cafés, cabarets de la ville, paraît-il qu'ils ont fait la fête, tous les deux. Et en 1955, il a créé un ballet sur plusieurs de ses compositions. Ça a été un véritable triomphe. Sa musique a connu un grand succès en Angleterre. Hélas, une hémorragie cérébrale a mis fin à ses activités en 1978. Il est mort à Barcelone le 30 juin 1987. Il avait 94 ans. Il a écrit de nombreuses pièces de piano d'un raffinement exquis dans leur simplicité, comme ce que nous venons d'entendre. On dit qu'il a cette qualité de pouvoir avoir cette puissance d'évocation. Ce qu'on a entendu tantôt, comme je le mentionnais, datait de 1974. Merci à vous, Catherine. C'était un long propos que je venais de tenir, mais c'est vous qui nous faites découvrir ce compositeur qui n'est pas très connu. Il y en a beaucoup probablement comme cela au plan de la musique pianistique qui sont encore inconnus et qui ont, ben, qui inconnus parce qu'on ne les diffuse pas suffisamment, mais qui ont écrit de grandes œuvres. Vous en connaissez sûrement un très grand nombre.
Puis d'ailleurs, il y a notre très grand Marc-André Hamelin qui tout souvent dans ses concerts, nous permet de nous faire découvrir de grands compositeurs aussi. Mais c'est sûr que nous autres, à un moment donné, on aime bien les pianistes changer de sentier, là, les Mozart, les Beethoven. On les a entendus travailler, alors ça fait du bien de découvrir autre chose.
Il y a beaucoup de... Il y a quelques années, je me suis mis à faire des découvertes au plan de la musique pianistique russe. Il y a beaucoup de compositeurs russes qu'on ne connaît pas beaucoup en Occident, qui ont écrit des pages quand même intéressantes.
Oui, tout à fait.
Particulièrement, je dirais, au début du 20e siècle ou fin du 19e, avant la Révolution d Octobre. La Révolution d'Octobre a peut-être été aussi une révolution culturelle qui n'a peut-être pas permis à ces musiciens de se faire connaître. Et on les redécouvre maintenant. Est-ce que pour un professeur tel que vous, qui travaillez auprès des jeunes, vous êtes parfois questionné justement sur la genèse des œuvres? Par vos élèves?
Bien, vous savez, nous autres, là, il y a quand même une base qu'il faut inculquer aux étudiants. Alors, il y a des étapes. Et avant d'arriver au 20e siècle, il y a tout... il y a le bac, aller chercher le Scarlatti, les études. On touche à la musique du 20e, mais peut-être une pièce ou deux, là, au niveau du cégep, je parle. Je pense que c'est plus à l'université là, que le... Ça se met à éclore encore plus loin, là.
Alors, vous avez parlé de Bach. Écoutons donc la cantate « Les brebis peuvent paître en paix », BWV 208 de Jean-Sébastien Bach, avec Magdalena Kojna, orchestre Le siècle des Lumières, direction Gustave Léonard.
Thank you.
Bach, c'est toujours nous surprendre. On dit que c'est l'ingénieur de la musique, comme Mozart a peut-être été le mécanicien. Lui est un peu l'ingénieur. C'est une musique qui est souvent très, peut-on dire, très organisée. Mais dans ce cas-ci, ça s'écoute merveilleusement bien. Est-ce que vous avez des compositeurs préférés? Est-ce que des...
Ben moi, pour moi, Bach, c'est ma source.
C'est votre source.
Oui. C'est sûr que j'adore nombre d'autres compositeurs, mais quand je reviens à Bach, ça se situe dans le ventre. Alors, Mozart, c'est quelque chose de plus drôle, d'euphorique, c'est plus haut dans la tête. Alors oui, il y a des... il y a des compositeurs qui nous parlent et puis, je pourrais dire, ça laisse des traces dans le corps, là.
Mais vous comprenez quand on dit que Bach est un ingénieur de la musique, que c'est une musique très organisée, parfois très bien structurée, alors ouais. Que Mozart, bon, vous le dites, c'est la folie.
Mais c'est le changement d'habitacle assez rapidement. À chaque deux mesures, il change d'ambiance, là.
Oui. On dit qu'une fausse note dans une œuvre de Mozart et l'œuvre s'écroule.
Peut-être, oui. Mais c'est parce que Bach, c'est la construction, puis c'est la rondeur, c'est l'organisation, c'est la structure. Il m'amènerait n'importe où.
Et si je vous parle d'un autre siècle, si je vous parle du 19e siècle et de Camille Saint-Saëns, là, on tombe dans un autre univers.
Tout à fait. Je crois que vous avez choisi de choisir une œuvre interprétée par M. Stephen Hoff, c'est
oui.
ça?
Oui. Vous aimez beaucoup cet interprète.
Oui, tout à fait.
Pourquoi donc?
Bien, je trouve que c'est un être qui est très raffiné. Je l'ai entendu en masterclass aussi à l'Université de Montréal. Je trouvais que c'était très imagé, très près des gens, des gens qui jouaient à l'université. Très coloré. C'est un artiste complet. Il peint lui-même. Il enseigne aussi et puis il joue. Il a un doigté extraordinaire, il est d'un raffinement. Je trouve ça un être très complet.
Alors, le voici interprétant le cygne, extrait du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. Vous savez, Catherine, que cette œuvre, Saint-Saëns ne l'aimait pas beaucoup. Il l'avait composé pour jouer dans le cadre d'un Mardi Gras. Et de son vivant, il en a interdit l'exécution publique, sauf ce qu'on vient d'entendre, le cygne, qui l'avait autorisé. Et ce n'est qu'après son décès qu'on a pu entendre l'œuvre complète, le Carnaval des animaux. Il en était un peu gêné. C'est curieux quand même, n'est-ce pas? Est-ce qu'il vous arrive, vous, parfois, d'interpréter des œuvres avec lesquelles vous êtes un peu mal à l'aise?
Bien, en fait, le Carnaval des animaux peut être joué à deux pianos ou piano quatre mains, puis je l'ai joué sous ces deux formes-là. Là. Et puis, c'est pas une œuvre qui m'attire particulièrement, mais quand on rentre dans l'œuvre en tant que telle et on commence à la travailler, on y trouve un certain plaisir. Puis on cherche toujours le meilleur. Hein? Puis on se dit, mon Dieu, à quoi pensait l'interprète, le compositeur? Alors, moi, même si à la base, des fois, on n'aime pas les œuvres, bon, on y trouve un certain plaisir.
Litz, paraît-il, la trouvait insipide, cette œuvre-là, mais a quand même dit qu'il en admirait l'orchestration. Là, on a entendu tantôt une transposition pour piano. Mm-hmm. Il en demeure pas moins qu'on peut parfois s'amuser quand on est compositeur. J'imagine qu'il vous arrive, vous aussi, de vous amuser avec vos élèves, avec des œuvres qui sont peut-être un peu plus distrayantes, pour le moins.
C'est ça, il faut aller chercher le meilleur, en fait.
Oui. Bien, si on va chercher le meilleur, on peut peut-être écouter André Laplante. Ça, c'est un interprète de chez nous qu'on a eu le plaisir de recevoir ici. Et là, vous nous proposez une œuvre de Maurice Ravel.
Un grand compositeur. André Laplante, c'est un de ses premiers disques. Là, je pense que je joue dans Ravel. Il y a eu son Tchaïkovski qui a enregistré après son concours. Puis ça a été un de ses premiers disques. Je suis très touchée par cet homme-là. Je trouve qu'il m'émeut. Est-ce que c'est parce que je l'ai entendu à Hartford souvent? Mais il dégage énormément. Je trouve que c'est un artiste complet quand il joue. Il m'inspire beaucoup. C'est toujours de la grande musique. Alors, j'écoute fréquemment son disque. Et Les oiseaux tristes, c'est un petit peu nostalgique, mais c'est tellement bien joué, c'est tellement touchant que je pourrais le mettre tous les jours. Je pourrais l'écouter tous les jours, cet enregistrement.